Interview.
2 jours.
Aujourd'hui, nous recevons Jacques Miroglio. Bonjour.
Bonjour.
Jacques Miroglio, vous êtes psychosociologue et vous êtes ici pour nous parler du café masculin que vous organisez prochainement à 10, le 3 novembre.
Ça aura lieu de 17h à 19h à la salle municipale Séverine Baumier.
C'est en quelque sorte un café entre hommes que vous indiquez. Et c'est pour vous, quelle est cette motivation pour proposer ce café masculin?
Alors effectivement, vous avez bien dit « entre hommes », c'est le nom entre guillemets que j'ai donné à ce café masculin. L'idée du café, c'est une idée qui commence à avoir un certain succès sur une thématique précise. Et il s'agit d'un échange de paroles entre personnes sur un thème. Alors ici, notre thème, c'est d'être un homme et de chercher à s'en trouver mieux en prenant la mesure, en prenant le temps de chercher pour chacun comment il vit d'être un homme. Voilà. Et alors, ma motivation, si on part au point de départ, c'est après avoir vu un film il y a un an et demi, qui s'appelle « Make me a man »,« Fais de moi un homme », qui était un reportage sur un psychothérapeute anglais qui anime des cercles de parole d'hommes depuis 25 ans à Londres. Et j'ai trouvé ce reportage extrêmement intéressant, et permettant aux hommes d'approfondir toutes les questions qui se posent. J'ai donc eu envie de faire pareil. J'ai projeté ce film lors des rencontres de DI, organisées par l'association Écologie au quotidien, le 28 janvier dernier. Et dans la foulée, j'ai proposé de démarrer ce café masculin. Et nous avons eu 3 séances en avril, mai et juin, qui étaient des séances mensuelles, donc le premier vendredi du mois de 17 à 19 heures. Voilà, et nous avons tardé un peu à reprendre là parce que nous changeons de local, le précédent n'étant plus disponible.
Comment s'opère ce café masculin? Est-ce qu'il y a un processus au sein de ces rencontres?
Oui. Alors, le processus, d'abord, pour y venir, je demande qu'on me téléphone en indiquant mon numéro sur les publicités que je fais et que vous allez faire pour nous. C'est donc le 06 64 76 05 97. Et une fois inscrit, on vient librement. Et il n'y a pas forcément d'engagement à venir dans la régularité. Certains sont réguliers s'ils le peuvent et s'ils y trouvent leur compte. Mais ce n'est pas une obligation. Et comment ça se passe? La première fois que quelqu'un vient, je lui demande de dire rapidement au groupe qu'est-ce qui l'a fait venir, pourquoi il vient. Autrement dit, quelle est sa motivation de départ qu'il a décidé à venir faire cette rencontre. Et ensuite, il y a un thème qui est proposé, en général par moi-même, mais pas forcément, qui va être le thème du jour sur lequel chacun est invité à dire son vécu sur ce thème. Alors, le plus important, c'est de dire que on parle de chacun de son vécu et que ce n'est pas une discussion d'idées. C'est une discussion à partir de ce qu'on vit et comment on vit les choses. Voilà.
Alors ça, c'est l'étape d'introduction, en quelque sorte.
Voilà, et c'est à tour de rôle. Chacun va parler sur ce thème à tour de rôle, avec un temps limité au départ, et puis on peut y revenir dans un deuxième et un troisième tour. Et c'est un espace, c'est un temps et un espace de partage de notre parole d'homme. Voilà. Quand il se sent prêt, chacun va prendre la parole et il est accueilli à tour de rôle. L'animateur, moi-même, donc, instaure avec eux une écoute bienveillante, ça c'est l'essentiel, parce que cette écoute doit être sans jugement, ni commentaire, ni analyse. Et c'est ce qui permet de vivre une confiance mutuelle, et cette confiance va garantir le respect de la confidentialité. Et c'est dans ces conditions-là, ça permet à chacun d'explorer très librement ce qu'il vit, comment il le vit, et pourquoi pas son intimité, quand il le choisit.
En fonction des propos que vous entendez, est-ce qu'il y a un domaine récurrent qui revient souvent dans les paroles des hommes qui viennent s'exprimer ?
Bah, ce qui est récurrent, c'est forcément de que se positionner en tant qu'homme, c'est presque obligatoirement et de façon prioritaire par rapport aux femmes, bien sûr. On est masculin par rapport à un féminin, et de même on va être amené à explorer comment chacun vit ça actuellement, comment il l'a vécu dans son histoire, s'il souhaite en parler. Et puis aussi pouvoir explorer ce qu'on appelle la part de féminin chez l'homme aussi. L'homme n'est pas fait que de masculin, sinon c'est une caricature, ce qu'on appelle le macho, qui est une carapace de cuirasse, de pouvoir, d'insensibilité à la douleur, aux pleurs, tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'apporte pas du bonheur d'être. Ça peut apporter du pouvoir sur les autres, quoique de façon illusoire, mais ça ne donne pas un équilibre. Voilà, donc ça c'est déjà une thématique globale, je dirais. Et après ça se décline, alors comment ? Sur le thème du jour, vous voyez, dans le film qui était au point de départ, qui s'appelait Make Me a Man, les thèmes proposés, et je reprends un peu cette idée, c'est tout simplement, ça va très loin, ça peut être quel est mon rapport avec mon père, ou bien une autre fois, qu'est-ce qu'il en a été avec ma mère, qu'est-ce qu'il en est avec les femmes, qu'est-ce qu'il en est avec le travail, qu'est-ce qu'il en est avec l'amour, qu'est-ce qu'il en est avec les enfants. Voilà le genre de thématique proposée, et ça va continuer.
Est-ce qu'il y a aussi l'aspect de la dépossession de l'individu dans la société aujourd'hui, par justement ces aléas économiques, sociaux, pardon. Est-ce qu'il y a aussi un sentiment d'égarement quelque part aussi ?
On va voir comment ça se présente. On n'a eu que 3 séances jusqu'ici, donc je ne vais pas dire qu'on a tout abordé, loin de là, mais aucun thème n'est interdit s'il questionne les gens qui sont là. Je dis bien en tant qu'homme, mais pas en général. Hein ? Voilà. Bien sûr que ça peut tout à fait entrer dans le champ. Et puisqu'on dit que les hommes sont bousculés à notre époque, vous voyez, par rapport à des époques avant où les rôles étaient beaucoup plus typés et sans poser de problème, du moins apparemment, sans poser de problème aux hommes, sans poser énormément aux femmes. Et je dirais que ce café masculin, il est aussi fait au départ pour moi en écho et en contrepartie du fait qu'il y a pas mal de groupes de femmes qui existent, de cercles de parole de femmes. Il n'y en a pas énormément d'hommes, mais ça commence à se faire. C'est pour ça que j'ai proposé d'en faire un sur le Diwa.
Juste pour, entre parenthèses, vous vous définissez comme psychosociologue. Peut-on décrire cette activité et son action ?
Alors oui, je peux, bien que pour moi c'est au passé parce que je suis retraité maintenant. Personnellement, j'ai eu une double formation de psychologue et de sociologue au niveau universitaire en Sorbonne, puis à Montpellier, Aix-en-Provence. Bon, voilà. Ça, c'était le point de départ. Et ce qui m'intéressait, c'était de travailler toujours avec des personnes en tant qu'individus et sous forme d'un travail en groupe et avec des groupes. Donc ça a été ça, ma longue pratique dans des secteurs très variés, qui a été dans les mines de Lorraine à l'époque où il y avait un contexte de fermeture des mines et de chômage, et il fallait aider les mineurs à se reconvertir. Donc là, il a fallu aider les formateurs à faire un travail qui ne ressemble pas à l'école. Et c'était un défi très intéressant parce que c'était d'emblée basé pas uniquement sur un enseignement, mais sur une écoute. Donc je dirais que la dimension majeure de mon travail, ça continue même si je ne suis plus en activité, c'est d'écouter et d'apprendre aux gens à écouter. Parce que certains le savent spontanément, beaucoup ne savent pas très bien faire ça. Et c'est important, quand on arrive à l'instaurer, ça donne beaucoup plus de liberté pour s'exprimer. Voilà ce que je vise. Alors, vous me disiez qu'est-ce que je faisais? Ben, par exemple, pendant 10 ans, j'ai travaillé aussi avec les hôpitaux à partir d'Avignon, dans tout le sud-est de la France, avec les hôpitaux et cliniques de toute taille. Ça allait des gros centres hospitaliers universitaires jusqu'aux petites maisons de retraite. Et je travaillais en aidant à la formation continue des soignants, essentiellement infirmières et aides-soignantes, parfois les administratifs, parfois les médecins aussi. Voilà. Et nous avons travaillé non pas sur la partie médicale, qui n'est pas mon secteur, mais sur les aspects relationnels, les relations avec les malades, avec leurs familles, les relations des soignants entre eux, quelles sont les difficultés quand il y a des conflits, comment on fait une gestion de conflits. Enfin, voilà le genre de choses sur lesquelles on travaillait. Et dans les hôpitaux en particulier, j'avais trouvé le goût et la spécialisation de travailler sur ce qui mettait le plus en insécurité les soignants, c'est-à-dire là où ils se sentent impuissants, c'est-à-dire par rapport aux maladies graves, comme les cancers, comme le sida. Quand j'ai commencé à travailler là-dedans, c'était les tout débuts du sida en 83. Et les soignants étaient assez angoissés, paumés face à ça, puisqu'on ne connaissait pas. C'était pareil, peut-être en plus grave que ce que ça a été avec le Covid il y a 4 ans. Voilà. Et puis, on travaille aussi sur l'approche de la vieillesse, où aussi les soignants ont de la difficulté à aider les personnes qui, quand elles sont dans leurs dernières années de vie, derniers mois, derniers jours. Et le troisième thème difficile aussi, c'était les maladies psychiques, l'univers de la psychiatrie. Voilà. Et donc on travaille sur tout ça, je dis bien encore, non pas au niveau purement médical, ça c'est du ressort des médecins et des infirmières qui l'apprennent aussi dans leurs études, mais on travaillait sur les aspects relationnels. Et ça apportait énormément d'éclairage aux personnes si elles pouvaient parler de ce qu'elles vivaient. C'était toujours centré sur partir de ce qu'on vit, et non pas de conception, de théorie, d'idéologie. Partir d'abord de ce qu'on vit, et en le disant, arriver à le comprendre. Et au fond, je propose un peu la même chose sur notre vécu d'homme, là, aujourd'hui, dans ces cercles.
Au lendemain, justement, vous parliez du Covid, au lendemain de ces contraintes sanitaires dues à cette épidémie, cette pandémie, il y a eu quand même un constat dans le Diwa, opéré par les collectivités, sur de grandes difficultés qu'ont traversées la population, et notamment la création, ce qui a impliqué la création du comité local de santé mentale. Est-ce que vous en êtes une déclinaison ou au moins peut-être un instigateur de cette proposition?
Alors, je n'en fais pas partie, je suis au courant du fait que ça existe, j'ai des amis qui y vont. Moi, je n'y suis pas investi dans la mesure où je n'habite pas le Diwa. J'habite à 60 km entre Dieulefit et Bordeaux, et donc je ne me suis pas investi dans ce projet qui est intéressant parce qu'il appelle les habitants à dire aussi ce qu'ils pensent, ce qu'ils attendent, les manques, les désirs, voilà. Donc c'est une initiative intéressante, mais je n'y suis pas.
Je parlais de cet aspect aussi de l'homme au sein de la société. Est-ce que il y a encore pour lui des repères qui lui permettent de pouvoir s'affirmer. D'ailleurs, ça c'est aussi un propos que vous proposez, l'affirmation de soi ou de s'affermir même.
Oui, bien sûr, puisque c'est ça qui est, comment dire, ce qui est mis en cause depuis, on peut dire, plus d'un siècle. Depuis au moins le début de la découverte de la psychanalyse avec Freud, et, au moins, si ce n'est avant, et de façon croissante, c'est le rôle classique et habituel de l'homme qui est dominateur de la femme, qui prend toutes les décisions, qui a le maximum de pouvoir, et avec une femme qui est vécue comme docile et obéissante. Donc c'est ça qui a été en crise. Et qui est toujours en crise, et donc nous sommes en train, en tant qu'hommes et avec les femmes, ou par rapport à elles, d'avoir inventé, on n'a pas le choix, un nouveau modèle d'homme. Ce qui s'accroche à ce rôle ancien, ben, ils peuvent s'y accrocher, mais c'est quelque chose qui est progressivement de moins en moins accepté. Il n'y a qu'à voir tout ce qui s'est passé avec tous les mouvements de contestation de la domination masculine sur les femmes, avec le mouvement MeToo en particulier, qui a pris comme une traînée de poudre dans le monde entier. Donc il y a un refus de la domination de l'homme de la part des femmes, et ça c'est une nouvelle donne qui est pour moi quelque chose d'une redéfinition de l'humain dans ces deux déclinaisons, masculin, féminin.
Vous parliez de ce processus de masculinisation de l'homme, de cette force de la nature en quelque sorte. On peut situer ça au lendemain de la Première Guerre mondiale, peut-être de ce qui a permis à la société, à l'idée du pouvoir de l'époque, de remettre la famille en avant, avec le père comme étant le chef de famille.
Alors oui et non. Oui, bien sûr, mais en même temps, ce qui s'est passé avec l'hécatombe de la guerre de 14, la grande boucherie, c'est que, de par l'absence des hommes qui étaient morts à Verdun, moi j'habite un hameau en ruine, où j'ai restauré une ruine il y a 50 ans, et ce hameau est en ruine depuis la guerre de 14. C'est-à-dire que dans plein de villages et de villes de France, les gens sont morts dans les tranchées à Verdun. Et donc ça faisait un vide sur le plan local, et donc les femmes ont été obligées d'essayer de reprendre les fermes, de reprendre du travail et tout. Et donc elles ont commencé à accéder au travail beaucoup plus qu'avant, et donc à devenir progressivement non dépendantes de l'homme sur le plan de l'argent. Et cela s'est complété, si je peux dire, enfin, oui, on peut dire ça, par l'invention de la pilule contraceptive et les méthodes de contraception qui ont donné à la femme la maîtrise ou presque de leur fécondité. Et les deux facteurs, accès à des ressources pour ne plus être dépendant de l'homme et d'autre part pouvoir maîtriser la fécondité au lieu de la subir de la part de l'homme, qui souvent faisait 5, 10 enfants à une femme sans problème, et puis pourquoi pas autant avec une autre, ben voilà. Et ben ce processus ne peut plus être. Et ça, ce sont les deux aspects les majeurs, l'accès à l'indépendance financière et l'accès à la maîtrise de la procréation, ou à la tentative de maîtrise, qui ont bouleversé le rapport des sexes et qui font que l'homme, même quand il le veut, ne peut plus être dominant sans partage comme antérieurement. Et ça, c'est j'appelle ça une révolution anthropologique carrément, plus qu'historique. Je dis bien anthropologique, puisque à part de rares exceptions dans quelques cultures jadis, ça n'a pas existé, l'accès de la femme à l'égalité avec les hommes. Or, c'est en train, lentement certes, mais à coup sûr, de se produire et de se mettre en place. Et donc, c'est une nouvelle redéfinition des rapports de l'homme avec la femme, qui va vers une recherche d'égalité qui n'est pas sans être problématique, mais qui est nouvelle. Une chance d'ouverture à autre chose qu'on ne connaît pas, et qu'on peut avoir intérêt, sinon bonheur, à explorer.
Lors de ces séances que vous pratiquez, est-ce que vous amenez aussi un aspect, peut-être l'histoire aussi de l'homme dans la société? Est-ce que vous abordez un peu le passé aussi de ce qu'est l'homme dans la société? Là, je vois au travers, vous parlez de, par exemple, de ces réunions qui étaient pratiquées en Antiquité, où les hommes se réunissaient pour pouvoir discuter entre eux, se conseiller, apprendre. Voilà.
Alors, si l'image qui me vient quand vous dites ça, et que j'ai pu voir en Afrique, où je suis allé à une époque, il y a une vingtaine d'années, c'est le cercle de Palabre, vous voyez. Mais c'est un échange entre hommes, effectivement, où les femmes ne participaient pas, et qui visait aussi à la fois à échanger librement entre hommes et aussi à diriger leur communauté. Donc c'était aussi une espèce d'assemblée politique. Mais jadis, d'ailleurs, les femmes n'avaient pas le droit de participer à la vie politique, et même le droit de vote est venu très très tard. Le droit de vote des femmes est venu très tard. Donc effectivement, c'est les hommes qui palabraient, c'est les hommes qui discutaient, et c'est les hommes qui décidaient. Et les femmes avaient leur propre lieu d'échange, avec moins de pouvoir, du moins évident, qui était par exemple le lavoir. Bon, il n'existe plus aujourd'hui, là où les femmes lavaient le linge, elles étaient entre elles, et elles avaient un équivalent. Les hommes avaient le café, les femmes avaient le lavoir, pour parler rapidement.
Et c'était par rapport aussi à cet aspect, est-ce que vous amenez, justement, je reviens un peu là-dessus, est-ce que vous amenez un peu quelques références lors de ces séances pour pouvoir vous positionner, hein, et aussi peut-être de donner une conscience aux hommes présents de ce qui existait auparavant? Parce que, semble-t-il, là, vous parliez de café, on peut dire que ça peut exister encore aujourd'hui, bien que ça soit devenu mixte, mais est-ce qu'il existe, comme avant, encore aujourd'hui, des groupes où les hommes se retrouvent dans la société? Je pense qu'à divers aspects ou classes sociales, il y a peut-être des évidences ou pas.
Bien sûr qu'il y a des groupes qui se retrouvent entre hommes. Il y a des sports qui sont typiquement masculins, bien que maintenant il y ait même des clubs de foot et de rugby féminins. Mais le rugby, par exemple, c'est essentiellement et avant tout masculin, jusqu'ici. Donc c'est dans les sports, il y a des sports très plus masculins que d'autres. Mais ça aussi est en train de changer. ça aussi est en train de changer. Et donc, dans ces clubs de sport, ben bien sûr que les hommes échangent, évidemment. Et ils échangent entre hommes quand ils sont qu'entre hommes. Dans les sports, c'est une vraie thématique. C'est pas la seule. C'en est importante dans notre société.
Les personnes qui viennent vous voir sont d'âge différent ou alors il y a peut-être une focale sur un âge plus particulier ?
Alors écoutez, sur 3 séances, je peux vous dire qu'il y a les âges allaient de 20 ans à 90 ans. Alors, on peut faire une moyenne au milieu, mais les moyennes n'ont de sens que statistiques. Pour moi, ce n'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est les individus.
Et vous abordez ne serait-ce que la notion de la peur aussi, ça c'est...
Évidemment.
Et comment se déclare-t-elle cette peur
Je vais vous dire comment elle se déclare. Je m'aperçois que je n'ai pas tout à fait répondu à votre question précédente. Est-ce que j'amène des notions d'éclairage et tout? Alors je dirais que, a priori, ce n'est pas mon choix d'apporter des analyses et des éclairages sociétaux. Je pourrais bien sûr, puisque toute ma vie de psychologue et de sociologue me donne quantité de références, et bien sûr je peux le faire, mais ce n'est pas trop l'objet, ce n'est pas trop ce qui est défini dans ce café masculin. Il est basé avant tout sur le partage et l'échange des hommes sur ce qu'ils vivent et comment ils le vivent. Et c'est à partir de là qu'on va aborder, par exemple, les peurs qu'on a. À partir de ce que chacun va pouvoir en dire. Et la condition pour ça, ce n'est pas d'apporter des éclairages théoriques, si intelligents se veulent-ils ou se croient-ils. La condition, c'est qu'il y ait assez de confiance dans les autres qui écoutent sans aucun jugement, ça c'est absolument primordial, c'est la condition qui permet que chacun puisse approfondir pour lui ce qu'il en est, y compris de ses peurs. Voilà.
Il y a aussi cet aspect donc de réunion entre hommes, comme oui. À l'image de celle entre femmes. Est-ce que vous-même, Jacques Miroglio, échangez avec des personnes qui s'occupent de ce type de réunion à l'adresse des femmes, afin d'échanger, de conseiller, de s'éclairer ?
Alors écoutez, quand j'ai démarré ce groupe-là, j'ai eu des contacts avec des personnes qui font ça sur Grenoble, par exemple, et qui m'ont dit que ça commençait à prendre de l'extension, qu'il y avait pas mal de groupes d'hommes, qu'il y avait aussi beaucoup de groupes de femmes, et qu'il y a aussi des groupes mixtes, et que parfois ils se réunissent entre eux pour voir comment progresser dans ces animations. Mais là, nous n'en sommes qu'au tout début. Ici à Dix. Voilà.
Voilà, c'était.
Et donc, je suis en relation effectivement avec ceux qui font ça ailleurs.
Voilà, c'était pour aborder aussi si les préoccupations étaient similaires, que ce soit l'homme ou la femme, dans ces craintes ou dans ces peurs, ou peut-être aussi dans la manière de pouvoir s'infermir.
Je vais vous dire une clé. Dans le film qui a été le déclencheur et au point de départ pour moi de cette initiative à Guy, dans ce film Make Me a Man, Fais de moi un homme, c'est filmé par une jeune femme franco-vietnamienne qui s'appelle Mei Hua, et elle filme Jerry, le psychopathe anglais, elle est jeune, il est assez âgé. Et à un moment donné, elle dit, sa motivation pour filmer, elle dit, j'avais participé à pas mal de groupes de paroles de femmes, j'étais rodé avec ça, je savais ce qu'on y trouvait, et j'avais une curiosité, c'était de voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, chez les hommes. Et donc c'est elle, une femme, qui est admise pour filmer, dans la durée, sur une année, ce cercle d'hommes, qui là sont tous réguliers, donc ils s'investissent depuis longtemps. Et sa conclusion dit donc, Je voulais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et elle dit, il n'y a pas d'autre côté. Autrement dit, ce qui interroge les femmes, c'est aussi ce qui interroge les hommes. Bien sûr, chacun avec sa tonalité, ses accents propres, particuliers, mais ce n'est pas de nature différente. Cela est du même ordre. Mais ça se décline au féminin et ça se décline au masculin. Et chez les hommes, ça se décline aussi avec du masculin d'abord et aussi une part féminine, si on veut bien l'écouter, la révéler, faire avec. Et de même que chez les femmes, il y a aussi une part masculine, si elles veulent l'écouter, l'avouer. Mais il n'y a pas de foncièrement et contrairement à ce qu'on croit souvent, les questionnements sont fondamentalement du même ordre. Ils se déclinent d'une façon différente. Voilà, c'est dans le comment que c'est différent, c'est pas dans le quoi.
On peut rappeler donc ce rendez-vous qui tendrait à se répéter mensuellement, toujours à dit.
A priori, on va continuer mensuellement. Ceci dit, moi je vais reposer la question aux personnes qui sont là régulièrement. Il se pourrait qu'on change un peu de format, peut-être qu'on passera à 3 heures plutôt que 2. Si ça ne convenait pas, on pourrait changer le jour qui pour l'instant est le vendredi soir une fois par mois. Voilà, pour l'instant c'est ça. Ça peut bien sûr évoluer en fonction des souhaits des participants. Voilà.
Est-ce que aussi...
Peut-être que je voudrais vous rappeler ce que je mettais dans la proposition de départ, pour quel gain venir à ces groupes. Hein. Et je disais, les gains qu'on peut y trouver, c'est de s'affermir en osant affirmer qui on est. Un autre gain, c'est de s'y réchauffer si on est dans une solitude un peu trop froide. Et ça, on peut se réchauffer du regard bienveillant, de l'écoute de nos égaux. Un troisième gain, c'est de s'enrichir, bien sûr, de l'échange de toutes nos originalités, nos individualités. Un quatrième gain, c'est de s'affiner par rapport au côté caricaturé dans le macho, dans le machisme, d'une force brute. S'affiner, c'est quelque chose qui n'est pas réservé aux femmes, que les hommes peuvent tout aussi bien prendre comme un axe de développement, de croissance infinie, ça n'a pas de fin. Et s'affiner, ça veut dire aussi prendre appui sur ses sensibilités et pas que sur l'intelligence qui est trop hypertrophiée. Et dans ce cadre-là, de prendre appui sur nos sensibilités, c'est aussi bien sûr explorer sa propre part de féminin. Voilà. Et puis le dernier point le plus global du gain qu'on peut y trouver, c'est, osons le dire, de grandir en humanité. C'est bien le propos de ces cercles d'hommes, c'est-à-dire de prendre la mesure de nos faiblesses et de notre puissance, voilà, pour être à sa juste place d'homme, voilà.
Il y a ces aspects de rendez-vous donc donnés. La séance, il y a juste une participation aux frais, peut-être afin de vous défrayer de votre venue, hein, puisque vous habitez loin. Sinon, c'est entrée libre.
Oui, il y a une participation libre, si on veut, à mes frais de déplacement, voilà.
Et puis, il y aura peut-être votre présence également aux rencontres de l'écologie en début d'année 2024.
Eh bien, merci de m'en parler, parce que C'est pour moi un rendez-vous incontournable depuis que j'ai découvert les rencontres de l'écologie au quotidien, à partir de 2006, donc dès la troisième ou quatrième année du démarrage. Et j'y suis venu de plus en plus régulièrement. Et pour moi, c'est un lieu de... C'est un temps important qui se prépare toute l'année d'ailleurs. C'est un temps de rencontres et d'échanges sur tout ce qui concerne l'écologie au sens large et dans de multiples dimensions. Une des dimensions étant celle du féminin et donc par contre-coup du masculin. Voilà. Et bien sûr, j'y serai.
Jacques Miroglio, je vous remercie en tout cas de nous avoir donné un peu de votre temps sur RDWA pour nous présenter donc ces cafés masculins entre hommes, le prochain étant donc le 3 novembre à la salle Séverine Baumier, entre 17 et 19 heures, hein, c'est ça?
Tout à fait ça, voilà.
Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.
Je vous remercie beaucoup.
Au revoir.
Ich grolle nicht, Angst für das Herz noch bricht, ewig verlorenes Lied, ewig verlorenes Lied, ich grolle nicht, ich grolle. Strahlst in Diamantenpracht, es fällt ein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ich sah dich. Die dir am Herzen.